VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. L'Union européenne a prolongé ce lundi de 2 ans le mandat de l'EUTM, sa mission militaire au Mali, et a étendu ses activités à la formation du G5 Sahel, la force de 5000 hommes mise en place par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad pour combattre les djihadistes. C'est ce qu'a annoncé le Conseil des gouvernements européens dans un communiqué aujourd'hui. Le budget de l'EUTM a été pratiquement doublé à 59,7 millions d'euros pour la période du 19 mai 2018 au 18 mai 2020, contre 34,4 millions d'euros pour la précédente période de 2 ans. L'EUTM Mali, dont les effectifs atteignent quelques 600 personnes, réunit des militaires européens de 27 pays, placés sous le commandement du général espagnol Enrique Millán Martínez depuis le 31 janvier 2018. Ces militaires européens ne participent pas à des missions de combat et n'accompagnent pas les unités maliennes dans les opérations. Leur mission de formateur est de remettre sur pied une armée malienne sous-entraînée et sous-équipée en leur apportant de l'expertise au camp de Koulikoro, à 60 km au nord-est de la capitale Bamako. L'EUTM est au Mali depuis février 2013. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le FPI, demande la mise en place d'une nouvelle commission électorale en vue de la présidentielle de 2020. Le président de l'une des factions du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo s'est exprimé ce week-end lors de la célébration de sa traditionnelle fête de la liberté. On écoute Pascal Afinguessan.
Pour nous, c'est une question essentielle. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte près de 26 millions d'habitants, ne peut pas se contenter d'une liste électorale de 6 millions d'électeurs. Il nous faut une liste électorale d'au moins 9 millions, 10 millions. Nous ne pouvons pas tolérer des recensements, des révisions qui sont faites à la va-vite de façon cosmétique, juste pour dire qu'on a fait un recensement, alors qu'en réalité, le corps électoral ne reflète pas la réalité politique du pays.
Pascal Afinguessan, leader d'une des factions du FPI, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo. Corruption au Nigeria, le procès des compagnies pétrolières Eni et Shell, soupçonnées de corruption lors de l'attribution d'un contrat pour un bloc pétrolier offshore au large du Nigeria, a été renvoyé au 20 juin par le tribunal de Milan dans le nord de l'Italie. La Cour italienne de cassation doit se prononcer le 12 juin sur un recours déposé par Shell au sujet de la régularité d'une décision concernant les prévenus du groupe. Et le président de la Chambre a estimé judicieux d'attendre l'arrêt de la Cour pour lancer le procès. Celui-ci devait initialement débuter le 5 mars, mais il avait été reporté à ce lundi en le transférant à une autre section pénale moins surchargée. L'audience du 20 juin sera consacrée à la constitution des parties civiles. République démocratique du Congo, un cas supplémentaire de fièvre Ebola a été enregistré dans le pays où les vaccins vont arriver mercredi ou jeudi, a annoncé dimanche le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Il y a un cas suspect à Bikoro, près de la République du Congo, a indiqué le directeur de l'OMS qui s'est rendu sur place lors d'une visite de 2 jours en RDC. Ce qui porte le bilan à 35 cas, dont 2 confirmés. Il a par ailleurs précisé qu'il y avait des cas suspects à Mbandaka, la capitale provinciale de l'Équateur. Les vaccins vont arriver mercredi ou jeudi. Nous en avons assez, a-t-il ajouté, sans préciser le nombre de doses qui seront distribuées. Au terme d'une rencontre avec le président Joseph Kabila, il a salué le très fort leadership du gouvernement dans la réponse à Ebola et la bonne coordination avec ses partenaires, notamment MSF et l'UNICEF. Vendredi, l'OMS avait dit se préparer au pire des scénarios.
RDC, toujours dénouement heureux dimanche de la prise en otage de 2 touristes britanniques et de leur chauffeur congolais dans le parc des Virunga, dans l'est du pays à la frontière de l'Ouganda. C'est ce qu'ont annoncé le ministère britannique des Affaires étrangères et les responsables du parc naturel. Le véhicule des 3 captifs avait été attaqué vendredi dernier par des hommes armés non identifiés qui ont tué lors de l'enlèvement Rachel Makissa Baraka, une garde congolaise du parc.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, la cour criminelle de la capitale a condamné à une lourde peine le général Jean-Marie Michel Mokoko, à l'issue d'un procès qui a duré en tout et pour tout 5 jours. À Brazzaville, comme à Pointe-Noire, les Congolais réagissent. Le reportage de notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
La sentence de Mokoko est tombée comme un coup d'éclair à Brazzaville. 20 ans de détention criminelle et 1 franc symbolique de dommages et intérêts sont la peine du général qui a opté pour un mutisme tout le long du procès. Certains Brazzavillois estiment que les faits reprochés au général Mokoko sont irréfutables et donc la sanction juste.
Il avait reconnu en 2007, puisque l'affaire a été réglée en famille entre... C'est la justice, hein, c'est la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est la révolution qui est en train de manger ses enfants.
Par contre, nombreux dénoncent un procès inique, le cas de Joe Washington et Bina de la plateforme FULD.
Cette condamnation inadmissible, cette condamnation est arbitraire. Ce sont ce genre de procès et nous ne sommes pas surpris de constater que malheureusement, le résultat qui était attendu est bel et bien sorti.
À Pointe-Noire, la ville où le général Mokoko a largement été voté en 2016, les populations ont été critiques face à la justice congolaise.
Quand on voit dans l'ensemble, ça n'a pas tellement... C'est comme un cinéma qu'ils sont en train de faire.
Il y a surtout le ras-le-bol. On a comme l'impression que les gens disent, bon écoutez, que ça finisse, qu'on entende la sentence qui va tomber et puis voilà. Basta. Quand on a brandi les preuves, notamment sur les images vidéo, ma foi, nous sommes en plein 21e siècle, que des images comme ça soient diffusées en plein procès, où on voit des images avec des cuts, l'évolution de l'image n'est pas linéaire, quelque part, on doit se poser des questions.
C'est ici que la majorité des opposants ont été bien reçus. De notre côté, vraiment, ça c'est un procès qu'on devait suivre en direct à la télé, mais le gouvernement nous a empêchés de le suivre en direct. C'est quelle justice que nous avons.
Selon Franck Loufoy-Bessy, secrétaire général de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, une ONG basée à Pointe-Noire, le procès Mokoko a causé la détérioration du climat de paix dans la ville pétrolière.
En tout cas, nous déplorons une dramatisation de la situation, y compris par les autorités et par les services de sécurité. Et on ne s'explique pas cela. Alors qu'il s'agit d'un procès, d'un individu, il y en aura d'autres. Mais à quoi est due cette dramatisation? On ne comprend pas. On note des arrestations, etc. Mais je pense que plutôt que de promouvoir un climat de terreur, il revenait aux autorités qui sont les nôtres d'apaiser la situation.
Les avocats du général Mokoko ont 3 jours pour faire appel. Mais avec la stratégie du silence, il n'est pas évident que le Conseil suive cette voie. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Afrique du Nord, l'Algérie a dénoncé dimanche ce qu'elle a appelé les propos irresponsables de Rabat. C'était en réaction aux propos du ministre marocain des Affaires étrangères qui, dans une interview à Jeune Afrique, a de nouveau accusé l'Iran d'avoir aidé militairement, avec l'appui d'Alger, le front Polisario. Le mouvement indépendantiste au Sahara occidental, ex-colonie espagnole, revendiqué par le Maroc. Et puis en Égypte, le procureur général a renvoyé dimanche 278 membres présumés de la confrérie des frères musulmans devant une cour militaire où ils seront jugés pour des accusations de terrorisme. Sur les 278 suspects, 141 sont déjà en détention préventive. Proche-Orient maintenant, les États-Unis inaugurent aujourd'hui leur ambassade à Jérusalem, une cérémonie qui commence en ce moment même et coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël en 1948. Des milliers de Palestiniens manifestent ce lundi contre le transfert de l'ambassade dans la ville sainte, notamment à la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu. Ces protestations ont déjà fait 37 morts et plus de 500 blessés côté palestinien, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Des manifestants atteints par des tirs israéliens. Plus de détails sur l'inauguration de l'ambassade américaine avec Nathalie Barge.
Le secrétaire d'État américain et le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale ont estimé dimanche qu'un accord de paix israélo-palestinien était possible après le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le processus de paix n'est certainement pas mort, a déclaré Mike Pompeo lors d'un entretien à la chaîne Fox. Nous y travaillons dur, a-t-il assuré. Pour le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, loin de saper le processus de paix, ce déménagement le rend plus facile, a-t-il fait valoir lors d'un entretien à la chaîne ABC. Reconnaître une réalité améliore toujours la probabilité de parvenir à la paix, a-t-il estimé. Pour l'envoyé palestinien aux États-Unis, Hussam Zomlot, le gouvernement américain a abandonné de lui-même le rôle de conciliateur en choisissant de déménager son ambassade.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.